Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la Voix de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nanit Talani. Presque tout le monde a déjà eu des maux de tête. Il arrive qu'en dépit de toutes vos tentatives pour les soulager, ils persistent, s'accompagnant entre autres de nausées ou vomissements, de la fatigue ou encore d'une sensibilité accrue au bruit, à la lumière et aux odeurs. Vous souffrez certainement d'une migraine. Qu'est-ce qui la déclenche? Comment ne pas la confondre avec d'autres types de céphalées? Que faire pour traiter une migraine?
Une douleur ou qu'elle siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, c'est d'arriver à poser un diagnostic. Ce n'est pas la majorité, mais certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie.
Quelles sont les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Gallo Diop, chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Le professeur Amadou Gallo Diop répondra aussi aux questions que vous avez posées sur la page Facebook de VOA Afrique. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé dans la deuxième partie présentée par Linan Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Voici venu le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop. Bonsoir professeur Amadou Diop.
Et bonsoir.
Les céphalées, on sait que c'est des sortes de maux de tête, mais est-ce que céphalée veut forcément dire migraine?
Céphalée veut dire mal de tête.
Et ce mal de tête inclut donc la migraine.
Dans les maux de tête qui sont le symptôme de quelque chose, vous avez plusieurs causes.
Quelles sont ces causes?
Parmi ces causes-là, l'une des causes est la migraine, qui est donc une céphalée, un mal de tête qui touche une moitié de la tête. C'est pour ça qu'on parle de migraine. En général, mi, ça veut dire moitié de quelque chose. Et c'est un mal de tête assez spécifique dans le cadre d'une dizaine ou une multitude de causes céphalées ou mal de tête.
Mais qu'est-ce qui peut déclencher une migraine?
Alors là, migraine, comme je vous le dis, siège d'un côté de la tête, mais d'une crise de migraine à une autre, le côté peut changer. On peut avoir cette fois-ci mal à la moitié droite de la tête et une autre crise avoir mal à la moitié gauche de la tête. Alors, les facteurs déclenchants, en général, au bout de quelques années de migraine, chaque malade finit par détecter des facteurs qui déclenchent ce mal de tête. Ils sont très variables et nombreux.
Professeur, que peuvent être ces facteurs?
Je peux vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques, quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique, mais auxquels ils sont sensibles, ou bien lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir qu'en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou telle boisson ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup.
Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs.
On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchants de sa migraine.
Nous avons un auditeur, Léon Mouquet de la RDC, qui veut savoir si les migraines sont neurologiques ou infectieuses. Je pense qu'il veut parler de l'origine.
Oui, là, migraine n'est pas une maladie infectieuse du tout. Les céphalées, dans le cadre des maux de tête en général, peuvent avoir toutes sortes de causes. Certaines causes infectieuses peuvent faire mal à la tête. Le simple fait d'avoir un palud ou une grippe peut engendrer un mal de tête. Quand on a des causes graves comme une méningite, parmi les symptômes, vous avez le mal de tête.
Ça signifie clairement qu'il y a des causes non infectieuses.
Il y a plusieurs causes non infectieuses. Le simple fait d'avoir des fois une sinusite ou des problèmes de vision ou une hypertension artérielle peut engendrer un mal de tête. Quand les gens ont une constipation qui dure longtemps, il y en a chez qui ça déclenche. Les maux de tête sont multiples, mais la migraine n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas dans sa forme neurologique. C'est une maladie neurologique, mais qui ne touche pas l'intérieur du cerveau.
Bon, professeur, la migraine ne touche pas l'intérieur du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe donc?
La migraine, c'est un problème vasculaire, c'est-à-dire que au lieu que les artères qui amènent le sang vers la tête aient un diamètre régulier, brutalement, ils se dilatent ou brutalement, ils se resserrent. Et donc, cette variation, dilatation et resserrement des artères est le primum movens de la crise de migraine déclenchée par des facteurs que je viens de citer. Mais la migraine, dans sa forme classique, mal de tête qui change de côté, qui récidive pendant plusieurs fois dans la vie, n'est pas une maladie due à une infection, alors que dans les maux de tête, vous avez quelquefois des causes infectieuses et plusieurs causes qui ne sont pas des causes infectieuses du tout.
Il y a plusieurs maux de tête. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'il souffre d'une migraine? Quels sont les symptômes qui pourraient alarmer quelqu'un?
Dans le cas d'une migraine classique comme celle qu'on a l'habitude de voir, le mal de tête, je viens de le dire, siège d'un côté du crâne. C'est un mal de tête que les malades vont décrire comme étant pulsatile, c'est-à-dire comme si le sang battait dans une moitié de la tête. Et en général, quand vous les interrogez, on leur demande souvent, est-ce qu'il n'y a pas des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes qui précèdent le déclenchement de la douleur?
Que disent ces patients?
Un bon nombre de malades vont vous dire, dans l'œil du même côté où s'est déclenché ou a siégé la crise de migraine, dans cet œil-là, quelques minutes avant, ils ont l'impression d'avoir vu des points lumineux ou des zigzags qui augmentent de diamètre ou des sortes de flashs ou en tout cas un trouble de la vision. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Ensuite, se déclenche la douleur pulsatile.
Que signifie une douleur pulsatile?
C'est-à-dire comme si ça tape dans la tête. Ensuite, vous avez une impression d'envie de vomir chez certains malades. Chez d'autres malades, vous allez avoir une sorte de mal-être qui peut aller jusqu'au vertige. Et pratiquement tous les malades vont vous dire que le fait qu'il y ait du bruit et de la lumière exagère l'intensité de la douleur. Et ils finissent par savoir que dès la crise de migraine déclenchée, ils doivent chercher un endroit sombre, sans bruit, et ça va contribuer tant soit peu à atténuer l'intensité de la douleur. Donc je répète quelques signes annonciateurs. Déclenchement de la douleur dans une moitié de la tête qui ressemble à des battements dans le crâne, suivi ou non d'autres signes accompagnateurs, nausées, vomissements, mal-être, vertige et autres, et intensification de la douleur à cause du bruit et de la lumière.
Nous avons une auditrice, Jeanne Niazalé. Elle dit qu'elle souffre actuellement des migraines. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'en cas de migraine, il faut s'alarmer ou il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison? Faut-il nécessairement consulter?
Une douleur où qu'elle siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de banal, ce qui ne va pas peut être quelque chose de plus grave. Une infection peut se manifester par une douleur, comme une fracture peut se manifester comme une douleur, mais une douleur, un vomissement, une fièvre sont des symptômes qui doivent alerter les individus et les amener à se faire consulter. Donc ça, c'est le premier conseil. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, qu'il soit neurologue ou pas neurologue, c'est à partir de ce symptôme-là d'arriver à poser un diagnostic en vous disant que votre mal de tête est dû à telle cause que je viens de diagnostiquer en vous examinant, ou bien j'ai fini de vous examiner, mais nous avons besoin de faire des examens complémentaires.
Quels sont ces examens supplémentaires qu'un médecin peut demander à faire pour déterminer le diagnostic?
Ça peut être une prise de sang et l'analyse du sang, ça peut être une radio du crâne, ça peut être un scanner, ça peut être un électroencéphalogramme ou d'autres examens plus lourds comme l'IRM, ça peut être tous les moyens techniques médicaux dont on dispose. À la fin de ce processus-là, le médecin doit a priori arriver à un diagnostic et vous dire que votre mal de tête est un mal de tête qui n'est pas grave. Vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas de malformation. Vos yeux, vos oreilles, votre tension, tout est normal. Donc, il s'agit d'une migraine parce que ça touche une moitié de votre tête. C'est récidivant, c'est pas une maladie grave. Donc, c'est vraiment aller consulter parce que certaines migraines, c'est pas la majorité, mais en tout cas, certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie. Je viens de vous citer des exemples de maladies qui ne sont pas la migraine, mais dans quelques cas, cette migraine, surtout dans les cas, et ça j'insiste là-dessus et je voudrais que les auditeurs prêtent une attention à ce que je vais dire, c'est-à-dire quand vous avez une migraine qui siège d'un côté de la tête, toujours du même et seul côté de la tête, et qui ne change jamais de côté, qui ne bascule pas d'une crise à une autre, à gauche ou à droite, ça c'est une raison fondamentale d'aller se faire consulter et d'aller jusqu'à l'imagerie du crâne et du cerveau. Parce que quand une migraine ne change pas de côté, c'est pas forcément dans tous les cas, mais il y a des cas où derrière se cachait une maladie qui va nécessiter une prise en charge assez spécialisée.
Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont les plus exposées aux migraines par rapport à d'autres?
La migraine classique, mal de tête, changeant de côté, pulsatile avec les signes accompagnateurs ou non que je viens de décrire, sur 10 cas de migraine, les 8 voire les 9 vont être des personnes de sexe féminin. Dans un ou deux cas, ça peut être un homme. Alors, quand on parle de migraine pure, sans cause dramatique derrière et que ça touche une femme, parce que c'est la majorité, si elle remarque bien, la migraine a dû se déclencher vers les premières années de la puberté, donc entre 13, 14, 15, 16 ans.
Cette migraine va-t-elle s'arrêter ou continuer?
Va continuer pratiquement toute la vie, de manière intense ou pas intense, fréquente ou pas fréquente, pour finir par complètement disparaître après la ménopause, donc à l'arrêt définitif des règles.
Mais professeur, les enfants peuvent-ils aussi souffrir des migraines?
Il y a des cas où l'âge de début peut être beaucoup plus précoce chez des jeunes enfants. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive, surtout dans des familles où la grand-mère était migraineuse, la mère est migraineuse, etc. Donc il y a un facteur familial qu'on trouve des fois, ou des femmes chez qui la migraine va se prolonger après la ménopause. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Et donc le fait que ça démarre vers la puberté pour s'arrêter vers la ménopause fait évoquer parmi les facteurs causaux de migraine un rôle que joueraient les hormones féminines. Mais ce n'est pas exclusif de la femme.
Donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes des migraines, mais les hommes aussi peuvent souffrir des migraines.
Il y a des hommes qui souffrent de véritables migraines comme celles qu'on a décrites chez la femme. Il existe par contre chez les hommes quelque chose qui est dans le même groupe de douleurs, mais qui ne va pas avoir un siège prépondérant au niveau du crâne, donc de la tête, mais qui va descendre un peu plus bas vers le pourtour de l'œil, une partie du visage, et qu'on appelle algie vasculaire de la face. Quand vous avez 10 algies vasculaires de la face, à l'inverse de ce que je viens de dire pour la migraine, les 8 ou 9 cas vont être chez les hommes et il n'y aura que 1 ou 2 cas chez la femme.
L'algie vasculaire cérébrale, qui est une sorte de mal de tête, donc elle atteint plus les hommes que les femmes.
Il se trouve que l'algie vasculaire de l'homme et la migraine partagent à peu près les mêmes phénomènes qui les causent, passant in fine par une instabilité du calibre des artères et perturbant la régularité de la perfusion du cerveau, du crâne et autres, mais sans en faire une maladie neurovasculaire comme celle qu'on trouve dans les accidents vasculaires cérébraux. Ça n'a absolument rien à voir pour rassurer vos auditeurs.
Vous venez de suivre notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop sur les migraines. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé avec Linor Moudou. Cette semaine, dans Carnet de santé, le nombre de personnes âgées dans le monde continue d'augmenter, mais comment les garder en bonne santé? La réponse d'un expert. Au Bénin, l'accès aux soins de santé adéquats est un véritable défi pour les seniors. Ensuite, la réalité virtuelle pourrait contribuer à une bonne santé mentale chez les personnes du troisième âge.
Alpha, dans Conseils et astuces, comment garder une bonne santé dentaire lorsqu'on porte un grill dentaire. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. En 2010, plus de 500 millions de personnes avaient 65 ans ou plus. Le nombre de personnes âgées devrait atteindre environ 1,5 milliard en 2050. Lorsque les gens vieillissent, de nombreux changements physiques et mentaux se produisent naturellement, affectant souvent leur bien-être. Selon les experts, beaucoup reste à faire à travers le monde, notamment dans les pays en voie de développement, afin d'assurer aux personnes âgées de vivre en sécurité, en bonne santé et dans la dignité. Au Bénin, comme dans plusieurs pays d'Afrique, répondre aux besoins des seniors en matière de santé constitue un défi majeur. Voici le reportage de Xavier Fagoun à Cotonou.
À Gontikan, un quartier populaire de Cotonou au Bénin, Radji Bella, 69 ans, y vit avec ses petits-enfants. À cause de son état de santé, cette veuve est contrainte de passer ses journées chez elle, sur cette terrasse.
J'ai des problèmes de santé depuis près de 5 à 7 ans. J'ai beaucoup de médicaments à boire. J'ai la tension, j'ai le diabète. Avec la tension, il y a des problèmes de cœur. Je suis tout le temps avec le cardiologue. Souvent, le cardiologue m'envoie chez le diabétologue. J'ai des problèmes d'ophtalmologie, OLL aussi. Je n'entends pas bien du côté gauche, pas du tout. Il n'y a pas de sécurité sociale à vie.
Dans les pays à faible revenu comme le Bénin, les centres de promotion sociale reçoivent de nombreuses personnes âgées. Et la mise en place de systèmes de santé performants reste un défi majeur.
Généralement, les personnes âgées qui viennent au centre ont des problèmes de diabète et de la tension artérielle. Donc la prise en charge est un peu difficile parce que l'État ne s'y est pas encore impliqué. Les personnes du troisième âge de notre zone ne bénéficient pas de la couverture sociale. Parce qu'on n'a pas d'assurance maladie et on n'a rien. Et on ne vit que par nos propres cotisations.
Faute de moyens adéquats, cette partie vieillissante de la population a un accès difficile aux soins. Ces personnes ont parfois droit à des consultations foraines sporadiques pour soulager quelque peu leur peine. Dans ce cabinet médical privé, les résultats de la consultation de ce septuagénaire révèlent un état de santé complexe.
Il est important de comprendre qu'au fur et à mesure qu'un individu prend de l'âge, sa santé se fragilise et il est donc exposé à certaines maladies. Dans un contexte africain, les problèmes de santé sont souvent des maladies dues à une mauvaise hygiène de vie, telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certaines maladies comme les arthroses, les maladies de la prostate également. Dans le cas du patient précédent, on a remarqué une mauvaise hygiène de vie, une consommation de tabac, un diabète, trop d'éléments favorisant la présence de cette hypertension artérielle. La prise en charge reposera d'abord sur de bons conseils hygiéno-diététiques tels que la consommation modérée de sel, l'arrêt du tabac, le contrôle du diabète présent, un peu de sport, la réduction de stress au cours des journées, mais également sur la prise de certains médicaments qu'on appelle médicaments anti-hypertenseurs.
La fragilité, le déficit auditif, la cataracte, les défauts de réfraction, la cécité sont d'autres problèmes de santé courants chez les personnes âgées. Des facteurs tels que l'environnement physique et social peuvent influencer positivement leur état de santé.
Pour en savoir davantage, nous joignons dans nos studios à Londres Patricia Conboy, directrice du vieillissement mondial et du plaidoyer avec HelpAge International. Ms. Conboy, welcome to the show.
Thank you so much for having me on, Lenore.
Tout d'abord, quelles sont les maladies qui affectent le plus souvent les personnes âgées?
Very commonly, seniors are faced with
En règle générale, les personnes âgées sont confrontées à des maladies non transmissibles telles que les maladies cardiaques, le diabète, telles que les infections pulmonaires. Mais peut-être ce serait bien si nous voyions un peu ce que cela pourrait signifier dans la vie des personnes âgées. Et je pense à une visite que j'ai faite à une femme âgée quand j'étais à Zanzibar, en Afrique de l'Est, il y a quelques années. Elle vivait avec sa famille chez elle. Et j'ai pu la rencontrer chez elle, elle était dans son lit, elle ne pouvait pas quitter son lit, elle ne pouvait pas quitter sa maison. Et la raison était qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral. Elle souffrait donc déjà d'une condition préexistante, notamment le diabète et la pression artérielle. Elle a eu un AVC. Après l'accident vasculaire, elle n'a pas reçu les soins appropriés ni la rééducation. Elle vit maintenant avec des années perdues à cause de son handicap, ce qui aurait pu être évité. Elle n'a pas reçu de traitement, le diagnostic dont elle avait besoin, lorsqu'elle en avait besoin. Cette femme vient à l'esprit lorsque vous posez des questions sur l'état de la santé. Et c'est ce qui est très important pour les personnes âgées, le diagnostic, le traitement, puis la réadaptation.
And that's what's very important for older people, the diagnosis, the treatment, and then the rehabilitation if a problem does arise.
Alors, lorsqu'on adresse la santé, le bien-être des personnes âgées, en quoi les priorités diffèrent-elles entre les pays développés et ceux en voie de développement?
Dans les pays développés comme dans les pays riches ou pauvres, les personnes âgées souffrent de maladies non transmissibles, surtout dans les pays les plus pauvres et en particulier en Afrique subsaharienne. Certains pays luttent pour établir leur système de santé. Les personnes âgées ont donc du mal à avoir accès aux soins dont elles ont besoin. Prenons un exemple de recherche récente qui a été réalisée en Afrique du Sud. Vous avez une enquête sur les personnes âgées de 65 ans et plus, et près de la moitié d'entre elles ont eu de la difficulté à accéder à des soins de santé d'un type ou d'un autre. Ces difficultés étaient liées au manque d'argent ou de transport ou au fait qu'il n'y a pas de personnes pour les accompagner. Donc toute cette question de pouvoir accéder aux soins et d'avoir ensuite les bons services en place est une différence essentielle avec les pays riches et les pays pauvres. Dans les pays riches, il est plus facile pour les personnes âgées de recevoir les soins dont elles ont besoin. Il y a un autre problème auquel je repense. Une autre femme âgée d'Afrique du Sud qui a été interrogée sur son expérience de visite à l'hôpital local. Elle a dit que lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital local, je crois qu'elle s'appelait Esther. Elle a dit qu'elle n'était pas contente de ce qui s'était passé parce que le médecin lui a dit qu'il n'y avait pas de pilule pour les âges avancés. Non, ce dont elle avait réellement besoin, c'était d'un examen approprié et d'un diagnostic approprié de son état. Et cela nous mène à reconnaître que les travailleurs de la santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, agents communautaires, ont eux aussi besoin d'une formation spéciale sur la santé du troisième âge. C'est donc positif. Il y a des endroits où ce genre d'intervention est efficace.
Avant de terminer, je partage avec vous cette question que nous avons reçue sur Facebook. Roger Mouhalira aimerait savoir quels changements les personnes âgées peuvent-elles apporter à leur mode de vie afin de rester en bonne santé.
Oui, la difficulté est que les personnes âgées peuvent être ostracisées ou que leurs terres sont menacées, surtout si elles sont vraiment très âgées et que peut-être les membres de leur famille veulent avoir accès à leurs terres. Cela dit, le travail que nous avons accompli avec nos collègues tanzaniens et HelpAge en Tanzanie nous a appris qu'il existe également de bonnes interventions pour tenter de résoudre ces problèmes, par exemple dans l'ouest de la Tanzanie.
Madame Conboy, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que Patricia Conboy est directrice du vieillissement mondial et du plaidoyer avec HelpAge International. L'espérance de vie a augmenté au niveau mondial selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans de nombreuses familles, les jeunes assistent impuissants au déclin cognitif de leurs parents et grands-parents, dont un grand nombre présentent les symptômes de démence. Il y a peut-être une solution pour prévenir ou retarder la démence chez ces personnes qui vieillissent à travers la réalité virtuelle. Solution expérimentée par l'Université du Sud de la Californie à Los Angeles. Les détails dans ce reportage d'Elizabeth Lee.
David Karchem se souvient exactement du moment où sa vie a changé pour toujours. C'était en fait il y a 10 ans, 3 mois et 3 jours. Karchem a eu un accident vasculaire cérébral au volant d'une voiture, mais le côté gauche de son corps est resté paralysé. Bien que la thérapie physique traditionnelle a un peu aidé au début, aujourd'hui, c'est grâce à une interface cerveau-ordinateur et à la réalité virtuelle qu'il retrouve ses mouvements plus de 10 ans après son accident.
Si quelqu'un ne peut pas bouger son bras dans le monde réel, nous pouvons augmenter ce mouvement dans le monde virtuel et utiliser la tentative de son corps pour bouger et lui donner l'impression qu'il bouge dans le monde virtuel.
Selon Sukli Liu, ergothérapeute et neuroscientifique, dans de telles situations, un blocage cérébral empêche le flux sanguin de circuler, mais grâce à la réalité virtuelle, le cerveau arrive à contourner le blocage. Dans cette étude, des électrodes sont placées sur le cuir chevelu et sur les muscles du bras. Elles sont également connectées à l'ordinateur et à ce monde virtuel. L'utilisateur doit essayer de déplacer ce bras virtuel avec son bras réel ou avec son esprit.
Nous espérons qu'en leur montrant un bras virtuel qui bouge et qu'une partie de leur propre corps est stimulée, cela contribuera à renforcer et à exciter les réflexes moteurs, puis à renforcer l'activité cérébrale liée au contrôle des capacités motrices.
Karchem explique qu'en travaillant avec un bras virtuel, il arrive désormais à étendre son bras et déplacer son poignet et ses doigts.
Cela a amélioré ma capacité à marcher.
Mais Karchem dit que les effets positifs ne durent que quelques mois. Les chercheurs travaillent sur une version portable de cette technologie que les participants pourront emporter chez eux afin de continuer à s'exercer et améliorer leur qualité de vie.
Ils peuvent coûter 20 dollars aussi bien que des milliers de dollars. Les grilles dentaires sont en métal et parfois recouverts de bijoux portés par des personnes à des fins esthétiques. En or, en argent ou en métaux non précieux, ces grilles sont amovibles et à la mode, en particulier dans la culture pop. Toutefois, ils peuvent endommager les dents lorsqu'ils sont portés trop longtemps. Le docteur Omo Shibo, Evelyn Eshikena, présidente de l'Association dentaire nigériane, explique.
Wearing grills permanently over the teeth for a long time can cause damage to the teeth.
Les grilles devraient généralement être enlevées, mais certaines personnes ont tendance à les garder et même à les coller aux dents, ce qui peut causer des dommages, notamment la présence de bactéries, de plaques dentaires autour du grill.
Grills should be generally removed.
Puisque leur présence empêche un bon brossage. Ça peut aussi entraîner des caries, des maladies de la gencive et une très mauvaise haleine.
De
plus, les grilles peuvent causer l'érosion de l'émail, ce qui peut entraîner des problèmes dans le futur. Il est donc préférable de les enlever de temps à autre.
Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous jetterons un regard sur l'épidémie du sida. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le professeur Amadou Gallo-Diop sur les migraines. Le professeur Gallo-Diop est chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Linor Moudou sur le suicide. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph, à la réalisation Zainab Abderrahman. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
24 heures.